Je vais inviter Dwayne à venir me rejoindre à l'avant. Could you come and join me in front? And yeah, that's the huge staircase. So I will say many things about you. Some will be good, some will be bad. All right?
That's
good. Dwayne est pasteur dans une église à Hamilton. Et puis Dwayne Klein, et c'était un des conférenciers hier. J'ai le privilège de faire connaissance de plus en plus avec lui parce qu'on sert aussi avec Gospel Coalition Canada sur le board là-bas, et puis il sert avec Gospel Coalition en Ontario. Mais quelques-uns d'entre nous, on a eu le privilège d'aller visiter son assemblée l'an dernier à Hamilton. Ils sont dans un énorme projet de construction de bâtiments, puis on voulait réfléchir à l'avenir de l'édifice ici. Puis honnêtement, on allait là premièrement pour voir leur projet de construction, puis on a découvert là une église qui est en mission dans son quartier depuis une vingtaine d'années. Donc il est pasteur de cette église depuis plus de 20 ans maintenant, et cette église d'une grandeur moyenne, 350 personnes, ça ressemble à notre assemblée, est connue dans la ville de Hamilton, 600 000 habitants, par à peu près toutes les autorités, et ils ont vraiment un beau témoignage, prêchent l'Évangile clairement, se tiennent debout pour les valeurs bibliques, ne sont pas toujours aimés pour certaines valeurs, mais leur témoignage d'amour envers la communauté ouvre des portes pour l'Évangile depuis maintenant plus de deux décennies. Donc, ils étaient 35 à l'arrivée de Dwayne, et puis ils ont tout un impact. Donc, ça va être un privilège pour nous de se placer sous son ministère. So, I've said so many good things about you.
And now the bad.
Yeah, the bad ones also. No. So, I will pray for you. Let me pray for you. I think I'll pray in French, but the Lord can understand that. And then, after that, Judith will come and read scriptures for us. All right, let's pray. Père éternel, merci pour Dwayne. Merci pour cette belle église à Hamilton, Seigneur, qui a appris à accueillir avec tous les troubles, les dérangements que cela peut impliquer, des gens qui sont en difficulté, des gens qui sont démunis économiquement, des gens qui, des fois, sont dans des difficultés psychologiques. Et ils ont appris, nous avons vu, Seigneur, leur accueil, combien ils savent aimer ces gens-là, Seigneur, avec l'Évangile, et combien tu t'es servi de ce témoignage d'amour au nom de Jésus-Christ pour toucher aussi des bien-nantis, des gens dans la région là-bas, Seigneur. Père, ce matin, on est assemblés pour recevoir le ministère de ta parole. Alors, je te prie d'être avec le pasteur Dwayne, de venir parler à nos cœurs par ta parole, de m'assister aussi dans la traduction, Seigneur, que je puisse vraiment bien rendre ses pensées et que tu viennes nous rencontrer ce matin, Seigneur. Bénis leur énorme projet de construction de bâtiments avec des logements sociaux là-bas, Seigneur. Bénis ce projet-là, accompagne-les. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen. So we'll listen to the reading of Scripture. Make them here.
Le passage biblique de ce matin est tiré de Ésaïe 58, versets 1 à 14, nouvelle édition de Genève. Ésaïe 58, versets 1 à 14, nouvelle édition de Genève. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé.
Merci. Bonjour.
Alors, bonjour. Je veux m'excuser déjà de ne pas parler français davantage. Je l'ai appris tout au long de mon secondaire, mais j'ai 47 ans et à l'époque, il ne nous enseignait pas le français avant que nous soyons en huitième année, une heure par semaine. Alors mon français est terrible. Je parle seulement un peu français. Il y a quelques années de cela, nous voyageons, mon épouse et moi, au Québec. Nous sommes restés quelques jours à Montréal et nous sommes allés à la ville de Québec et puis un peu du français est revenu. Mais ça ne fait pas assez longtemps, cette fois-ci, que je suis en visite. Par contre, j'ai aimé visiter Montréal hier soir et de voir la culture et la vie le soir. C'est vraiment une très belle ville. J'aime beaucoup, j'apprécie votre pasteur Yannick et notre partenariat avec la Coalition pour l'Évangile et ce ministère dont nous faisons partie aussi. Et nous faisons partie aussi de la même association d'églises. Nous faisons donc partie du même mouvement d'église à travers tout le pays. C'est une joie, un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Nous avons un jeune homme à l'église chez nous qui s'appelle Jonathan. Il étudie au séminaire Héritage. Il est né ici au Québec et cet été, il fera son stage avec vous. Il s'appelle Jonathan. Il a prêché chez nous pendant le temps des fêtes. Et vraiment, il a fait un très bon message. Vous pourriez aller l'écouter sur notre site web. Ça s'appelle Houston Baptist Church. Et notre prière, c'est que cet été, il puisse être une bénédiction pour vous et qu'éventuellement, il puisse peut-être venir implanter une église ici au Québec. Nous sommes vraiment contents qu'il puisse venir chez vous. Ce matin, je vais parler un peu du ministère envers les marginalisés. Et alors que je parle du ministère envers les marginaux, je veux que vous connaissiez mon contexte, mon histoire. Je suis grandi en campagne. 47 minutes à l'extérieur de la ville. Si vous regardiez dans ma cour, tout ce que vous voyez, c'était des champs, des fermes. À l'âge de 13 ans, je traillais des vaches, je travaillais pour des fermiers, je conduisais des tracteurs. C'est ce que je faisais. J'ai grandi dans ce contexte. Ensuite, je suis allé à une école biblique à Tyndale, en Colombie-Britannique, et jamais je n'avais imaginé que Dieu m'appellerait à un ministère dans le centre-ville. Je présumais qu'un jour, je serais dans un contexte rural, parce que je comprends le milieu rural, je comprends les fermiers, je comprends les petites villes.
Alors, quand Dieu m'a appelé dans un centre-ville, dans un milieu urbain à Hamilton, c'est à ce moment, il y a 25 ans. À ce moment, cette communauté était la troisième plus pauvre au pays. Je ne comprenais pas la pauvreté, je ne comprenais pas la métropole, je ne savais pas comment vivre au milieu de ces gens. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne, on n'était pas très riche, les fins de mois étaient serrées, et mon père avait plusieurs emplois. Alors, il y avait des défis, mais on faisait toujours les fins de mois, il y avait deux voitures dans l'entrée. Et lorsque nous étions adolescents, il y avait quatre voitures dans l'entrée. Il n'y avait pas d'autobus, on devait toujours conduire. Alors, entre 16 et 22 ans, ou 24 ans, alors, nous avions quatre voitures dans l'entrée lorsque les enfants, nous étions tous des jeunes adultes. Je comprenais donc le milieu rural, et puis Dieu m'a appelé dans le centre-ville. Je ne comprenais rien à ce milieu, et cela fait 25 ans que j'habite là. Derrière chez nous, sur 25 pieds de large de terrain, derrière chez nous, il y a un abri pour, en fait, l'abri le plus large pour les hommes sans abri au Canada. Je peux marcher en 5 minutes jusqu'à l'église, et puis nous avons un petit commerce, mon épouse a un commerce à 5 minutes de chez nous, elle retouche des meubles anciens, beaucoup d'artisanat, et cela est 5 minutes dans l'autre direction de la maison. Donc, le travail à 5 minutes d'un côté, l'église à 5 minutes de l'autre. C'est un nouveau commerce pour nous. Nous avons 4 enfants, 2 jumeaux. Les plus jeunes sont 2 jumeaux. Ils sont nés à 29 semaines, 1 livre et 2 livres. Et la journée où ils sont nés, le médecin nous a dit « Nous ne pensons pas qu'ils vont vivre. » Elles ont maintenant 9 ans. Elles font notre joie. Elles sont extraordinaires. Et lorsqu'elles ont commencé à aller à l'école, mon épouse a dit « Il faut que je fasse quelque chose d'autre. Je ne vais pas rester toujours à la maison. » Et on ne savait pas si ça fonctionnerait, mais nous avons commencé une petite entreprise et ça va très bien. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Shiloh. J'étais dans le nord de la province, 3 heures au nord de Hamilton, le camp MBC pour les pasteurs, il y a 10 ans de cela. Alors, je fais ce voyage. J'ai vraiment apprécié l'endroit, la nourriture était bonne, 150 pasteurs, des amis, on s'assoit ensemble, on partage, on a du bon temps. Et puis un homme, Robert Pfeiffer, arrive, vient me voir et me dit « j'ai un problème ». J'ai dit « qu'est-ce qui se passe, Robin ?» Il dit « en faisant la route pour monter, je priais que Dieu me conduise vers quelqu'un auprès de qui je pourrais exercer un ministère. Alors comme je montais, il y a un homme qui faisait le pouce, il s'appelait Shiloh. Je l'ai embarqué. 19 ans, vient de sortir de prison. Ses parents sont décédés lorsqu'il était jeune. Ses grands-parents sont décédés il y a un an. Alors, il va de maison en maison, de rue en rue. Et il a des dépendances à des drogues. Il s'injecte des drogues. Maintenant, depuis qu'il est sorti de prison, il n'a pas touché ces drogues-là, mais il consomme encore des drogues. Il me demande de l'aide. Je ne sais pas quoi faire. Alors, je dis, on est au camp, à Muskoka. Je ne suis pas à Hamilton. Mais je dis, je connais des ressources à Hamilton. Je m'assois avec Shiloh, je lui explique comment cet endroit pourrait l'aider. Shiloh m'a dit, OK, on part. Alors, le lendemain matin, un peu contre mon gré, on prend la route. Je n'avais pas vraiment envie de le faire, mais on redescend à Hamilton. On s'en va à cet abri pour hommes. Et on explique à Shiloh comment les gens vont pouvoir prendre soin de lui à travers le programme. Et ils lui ont vraiment tout très bien présenté. Après 1 heure de présentation, Shiloh dit, « Non, c'est pas pour moi, ça. Ramène-moi au nord. » Là, j'ai dit, « Quoi? On vient de voyager 3 heures. Non, je te ramène pas là-bas. » Alors, on est allé à notre bâtiment d'église, petit bâtiment d'église. On est en train d'en construire un nouveau. Alors, on se réunit dans une école, mais on a encore ce petit bâtiment dont le sous-sol est sur la terre battue. C'est minuscule avec une petite cuisine à l'arrière. Alors, j'amène Shiloh là et je me suis dit, au moins, il pourrait être à l'église. Shiloh a dit, non, c'est pas bon pour moi. Ramène-moi dans le nord. Peux-tu m'amener un petit peu plus loin au nord, en fait? J'ai pas le goût d'aller à Muskoka. Fait que j'ai dit, quoi? Là, Robin, il dit, oui, pas de problème. Puis moi, j'ai dit, non, c'est un problème. Alors, nous marchons pour nous rendre à la voiture, et pendant qu'on est en train de marcher, mon épouse est environ 500 pieds devant moi. Elle revient du travail. Elle aidait auprès d'enfants dans le besoin. Elle pense que je suis à 3 heures d'ici. Et je dis, Amy! Elle s'arrête. Elle regarde. Elle continue à marcher. Puis je dis, Amy! Elle se dit, Seigneur, ta voix ne peut pas avoir la voix de Dwayne. Elle se tourne, elle m'entend, je lui explique. Et Robin et moi, on reprend la route. Alors, je suis assis en arrière. Shiloh et Robin sont assis en avant. Moi, je suis frustré. J'ai l'impression que ce jeune homme nous a abusés. On veut l'aider, il ne veut pas d'aide. Je suis frustré. Et à ce moment-là, moi, je pense que je connais son besoin. Il ne veut rien savoir. Et pendant qu'on est en train de conduire, on voit ses enseignes. Il y a des années de cela, il y avait des enseignes sur les terrains. Puis parfois, il pouvait y avoir des versets bibliques ou des choses qui concernaient Dieu. Alors, une enseigne disait, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Puis un peu plus loin, une enseigne disait, « Mais merci, merci à Dieu pour Jésus-Christ. » Et des grandes enseignes. Et Shalom dit, « Je ne comprends pas comment le péché et la mort et Jésus peuvent aller ensemble. Quelqu'un peut-il m'expliquer ça, les gars? Est-ce que vous savez? » Et pour la prochaine heure et demie, on a partagé l'Évangile avec Shiloh. Et j'ai été humilié parce que Dieu avait un agenda qui n'était pas le mien. Et je voulais imposer mon agenda sur le Seigneur et sur Shiloh. Parce que je voulais m'évader, je ne voulais pas être là avec ces gens. Ça faisait 10 ans que j'aidais les marginalisés. Et le Seigneur m'a dit, ton cœur est en train de s'endurcir, Dwayne. Alors, je suis en train d'utiliser Shiloh, cette situation, pour adoucir, attendrir ton cœur. Alors, venez avec moi dans le passage de ce matin dans Ésaïe 58, afin que vous puissiez l'entendre. Dans Ésaïe 58, crie à l'Éternel, élève ta voix, déclare à mon peuple leur rébellion et aux descendants de Jacob leur péché. Car jour après jour, ils me cherchent, ils semblent me chercher, comme s'ils étaient une nation qui fait le bien. Mais qui rejette en réalité. Ils demandent la justice et semblent vouloir que je m'approche d'eux. C'est le peuple juif, probablement le territoire du Nord. Ces gens sont le peuple de Dieu qui se présente au temple, ils présentent des sacrifices, ils adorent, ils chantent des chants, ils lisent les Écritures, écoutent les Écritures. C'est le peuple de Dieu qui se présente. Et ce que Dieu dit, vous semblez vouloir me connaître, mais vous reniez ce qui en fait la force. Vous semblez vouloir faire le bien, mais en réalité, vous rejetez mes commandements. Voyez, c'est facile de juste de passer à travers la motion, se présenter à l'église, s'impliquer dans un petit groupe, s'impliquer à l'école du dimanche, s'impliquer. Et peut-être que la dernière fois que l'Esprit de Dieu a vraiment parlé à votre esprit, remonte à beaucoup plus loin que vous le souhaiteriez. Parce que peut-être, quelque part, il y a une distance qui s'est installée entre une œuvre vitale de Dieu dans vos cœurs et cette espèce de motion quotidienne. Vous suivez les habitudes, vous. Peut-être que vous lisez votre Bible, vous priez. Peut-être même que vous présentez dans un groupe, vous participez, et pourtant vous réalisez qu'il y a une sécheresse dans votre cœur et que cette sécheresse a amené votre cœur à s'endurcir. En fait, regardez dans Ésaïe 58. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as pas point égard? Ces chrétiens sont en train de jeûner ou ces juifs sont en train de jeûner régulièrement. Alors, je vais vous dire ceci. Jeûner, ce n'est pas seulement quelque chose qu'il y a dans l'Ancien Testament, on le voit aussi dans le livre des Actes. La Bible est claire que lorsque des anciens sont en train d'être nommés, l'Église prie. Et lorsque des missionnaires sont envoyés, l'Église prie et jeûne. Jésus parle, non pas si vous jeûnez, mais quand vous jeûnez. Et donc, dans nos disciplines chrétiennes, nous devrions jeûner. Mais je connais beaucoup de chrétiens qui ne jeûnent plus. Et lorsque je pense à des chrétiens qui jeûnent, dans leur discipline régulière, je pense généralement à des chrétiens qui sont vraiment des gens de Dieu, pas simplement des chrétiens qui suivent la motion. Pourtant, le prophète Ésaïe dit que ces Juifs se présentent à l'Assemblée ou ces chrétiens se présentent ils apportent leurs sacrifices, participent à des études bibliques, chantent leurs chants, entendent la lecture, même ils jeûnent. Et pourtant, leurs cœurs sont secs. Remarquez ce qui se passe, c'est une ironie. Parfois, dans les Écritures, il y a de l'ironie. Dieu, on jeûne. Tu vois bien qu'on est humble. Est-ce que tu ne remarques pas? Ça a été extraordinaire combien nous nous sommes humiliés devant toi. Vois notre humilité. Honnêtement, c'est frappant. Regarde, Seigneur, comme nous sommes humbles. C'est ça qu'ils sont en train de déclarer. Est-ce que vous voyez l'ironie du passage? Est-ce que tu vois, Seigneur, on était fidèles, je suis allé à l'école le dimanche matin, j'ai fait tout ça pour toi. Et Dieu dit, oui, mais je regarde à ton cœur. Et ton cœur est dur. Pourtant, dans ce jour de jeûne, tu fais comme tu veux, tu exploites tes employés, tu les payes pauvrement. On n'a pas exactement l'explication, mais il y avait une forme d'abus. Peut-être qu'ils faisaient travailler trop d'heures. Peut-être qu'ils ne leur donnaient pas de pause. Peut-être qu'ils ne les abreuvaient pas. Mais ils exploitaient leurs employés. Alors, vous jeûnez et pourtant vous frappez votre prochain. Et donc, vous jeûnez, mais vous bagarrez, puis vous pensez que votre voix va être entendue. Si c'est ça que vous croyez, vous voyez dans la religion, si vous pensez que se présenter à l'Église, c'est juste prier, se présenter à l'Église, juste suivre la motion d'être dans un petit groupe, et pourtant mon esprit n'est pas à l'œuvre profondément en vous, je ne t'entends plus.
I've simply stopped
Dieu
hearing
dit,
you.
Je ne t'entends plus. J'ai arrêté de t'écouter.
You see, when you have Christians
vous voyez, lorsqu'on
who are
a des
just going through the motions,
qui ne font que suivre la motion,
when you have Christians who are showing
vous avez
up at
des chrétiens qui se présentent
being
à l'église,
group,
ou dans des petits groupes,
helping out with kids ministry,
aide avec les ministères à l'enfance,
and even fasting,
et peut-être même jeûne,
and yet the last time the Spirit
et pourtant,
of God
la dernière
really
fois que l'Esprit de Dieu a vraiment parlé à leur
esprit
et attendri leur cœur, si ça fait longtemps, vous n'avez pas des gens de Dieu, vous avez simplement des gens amers contre Dieu, des gens religieux. Et c'est pour ça qu'ici, dans Isaïe 58, ils se retrouvent même engagés dans des bagarres. Et voici ce qu'il dit ensuite.
Yet, is this the kind of fast I have chosen?
Est-ce le genre de
is it only
de
a day for you to humble yourselves? Is it only for bowing one's head like a reed? Do you know what a bent reed is?
Montrer
it's useless. God calls his
humilité.
People
cela est inutile.
Useless.
Dieu leur dit, c'est inutile.
Is it for lying on sackcloth and ash? That's
est-ce
a sign of humility.
Simplement pour
is that what you call a fast, a day acceptable
est-ce que
to the Lord?
Cela que vous appelez un jeûne acceptable aux yeux de Dieu?
Is this not the kind of fasting I have chosen?
Voici le jeûne auquel je prends plaisir.
The kind of fasting I have chosen.
Voici le genre de jeûne.
The right religion I have chosen. The way I want you to live as my people.
Voici la manière que je veux que vous viviez comme peuple de Dieu.
What should happen if you're my people? If the sacrifice of Christ has really meant something to you.
If
my spirit is really in you.
Si mon esprit est vraiment en vous.
If being a part of this congregation
si partie de cette congrégation
really
prend du sens vraiment pour vous, voici ce que je veux voir. Voici la vraie religion que je veux voir. Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés et rompre toute espèce de joug. Alors que vous vivez votre quotidien, alors que vous vivez la manière que Dieu veut que vous viviez, alors que vous êtes connecté à lui, que vous lisez la Bible et dans la prière, dans vos petits groupes et dans vos ministères d'église, alors que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, vous devriez en train de vous promener partout à Montréal et voir les injustices qu'il y a et détacher, libérer ceux qui sont pris dans ces injustices et briser ces liens afin qu'ils ne soient plus pris dans cette injustice encore. C'est ce que Dieu dit. Et cela devrait faire partie de votre vie chrétienne quotidienne. Cela devrait faire partie de votre vie comme chrétien. C'est ce que vous devriez être. Vous devriez être une personne remplie de justice et de compassion.
Now let me define them.
Alors, permettez-moi de définir la compassion. La compassion, c'est aider quelqu'un dans le besoin. Tu vois un besoin, tu aides. La justice est éliminer ce qui cause le besoin. Justice, c'est il y a une raison pour ce besoin. Alors, je dis toujours aux gens, vous devez toujours vous demander, est-ce qu'il y a une opportunité pour la justice? Parfois, il n'y a pas d'occasion. Il y a eu beaucoup de compassion quand nos jumeaux sont nés. Nous étions à l'hôpital pendant 3 mois. Nous devions être constamment. On ne pouvait pas toucher à nos filles. On pouvait simplement les regarder. Ma fille Ivy a perdu sa peau. Toute sa peau s'est renouvelée deux fois. Nous avions tous, ils avaient un virus qui les a rendus profondément sourds, mais cela pouvait aussi affecter leur cerveau et les rendre aveugles. Alors nous vivions cela pendant 3 mois. Pendant même les 6 premières années, pendant que nous sommes là, le médecin dit qu'il y a un vaccin qu'on peut leur donner qui va combattre le virus, mais ça va leur donner le cancer. Alors, nous pouvons leur donner ce vaccin qui va leur donner un cancer. On dit, OK, wow. On va suivre le cancer. Mais imaginez, alors les gens étaient bons avec nous. On avait 2 enfants plus vieux qui avaient à l'époque 6 ans et 9 ans. Alors les gens prenaient soin de nos enfants, venaient à l'hôpital, s'assoyaient avec eux dans un espace pour enfants, nous apportaient des repas. Pendant 3 mois, nous n'avons pas fait de repas. Il y avait beaucoup de compassion, mais il n'y avait pas d'injustice. Les médecins étaient super, le personnel est extraordinaire. Il n'y avait pas d'injustice. Il y avait juste une opportunité pour la compassion. Alors, on peut l'analyser de toutes les manières. Il n'y avait pas d'injustice à régler, mais parfois, il y a de l'injustice. Parfois, j'aide un père monoparental qui a acheté une maison pour ses enfants. Il a été abandonné par son épouse. Je suis à la maison et il a... Alors, il a amené quelqu'un de la compagnie de gaz. Et on est le 23 décembre et il doit faire changer sa fournaise. Alors, il vit dans cette maison depuis 30 ans. Et l'homme du gaz dit, « Wow, c'est très, très vieux, ce n'est pas bon. » Et il ferme le chauffage le 23 décembre. Alors, cet homme n'a plus de maison. Il aurait dû lui dire, « Je te donne 30 jours pour te déplacer. » C'est ça la loi. Mais au contraire, il le coupe. Alors, il dit, « Qu'est-ce que je fais? » Et il appelle la compagnie de gaz. Et la compagnie dit, « On a fait une erreur, mais c'est Noël. Alors, on ne peut pas revenir avant le 2 janvier. Hein? » Vous avez déjà vu des choses comme ça. Il dit, « Quoi? J'ai 2 enfants. » Ils disent, « On est désolé, on ne peut rien faire, c'est le temps des fêtes. » Alors, il dit, « Qu'est-ce que je fais? » Il dit, « J'ai dit, laisse-moi faire un appel. » Je les ai appelés à la compagnie de gaz. Voici une véritable injustice. Je comprends que je ne vais pas gagner, c'est correct, mais je veux que vous sachiez que je vais aller aux journaux pour expliquer que vous avez coupé cela à un foyer monoparental juste avant Noël, dans le froid, et tout le monde sera cela. Et ils ont dit, nous allons être là dans une heure. Ils ont remis le gaz. Ouais. Il y avait une situation d'injustice. J'ai parlé en faveur de la justice. Ils ne me connaissaient pas, ils ne savaient pas que j'étais pasteur, quoi que ce soit. Tout ce qu'ils savaient, c'est que j'étais un ami de cet homme, et j'ai dit, ce n'est pas juste. Et parce que le journal a parlé de nous à plusieurs reprises, je savais que le journal accepterait de publier cela. Je les ai menacés, et la justice pouvait être rétablie. Il y a des injustices autour de nous. Qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui a une maladie mentale, se drogue, ne peut pas se trouver un travail et tout le monde refuse de lui accorder un logement parce que c'est impossible pour lui? Alors, je marche avec quelqu'un qui a une maladie mentale à Hamilton. Beaucoup de luttes. Il reçoit 1 000 par mois parce qu'il est handicapé. Le loyer le moins cher qu'on peut trouver, c'est 800 par mois. Juste un studio. C'est une pièce avec une toilette. Pas de cuisine. Il y a une cuisine commune au bas. Alors, il lui reste 200 $ par mois pour tout le reste. Il est handicapé avec une maladie mentale. Il a 200 $ pour le téléphone, la nourriture, les déplacements, pour tout. Si vous travaillez, si vous êtes sur le bien-être social d'Ontario, vous recevez 600 $ par mois. Alors, qu'est-ce que vous faites alors que dans notre ville, c'est 800 $ pour un studio? Comme à Montréal, c'est très cher. Il y a une injustice. Le logement est une nécessité de la vie. Les gens ont besoin d'un abri. Et la majorité d'entre nous ne luttons pas avec des maladies mentales au point de ne pas être capable de discerner quoi que ce soit. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous luttent avec de l'anxiété, la dépression, mais certains vivent dans un nuage constant de maladies mentales et nous allons les croiser dans la rue et on va les blâmer de traîner dans la rue. Vous savez, dans les 2000 versets dans la Bible qui parlent que Dieu se soucie des pauvres, ce n'est que dans les cas des gens qui peuvent travailler que Dieu les blâme. Mais il y a des centaines de versets où Dieu est Israël et dit à son Église, « Prends soin des pauvres, il ne les blâme pas. » Jamais il les pointe du doigt. Seulement celui qui peut travailler. Et il dit qu'on devrait chercher au quotidien, être sensible à travers notre relation avec Dieu, être sensible aux injustices et rétablir la justice. Verset 7. Est-ce que ce n'est pas une bonne relation avec Dieu de partager votre pain avec celui qui est dans le besoin et de partager votre maison et envoyer l'homme nu de le couvrir et de ne pas se détourner de lui? Dieu dit, ils ont été créés à mon image et chaque fois que vous passez à quel côté d'un marginalisé, il a été créé à mon image. Il a été créé à l'image de Dieu. Amen. Ce sont des gens pour qui Christ est mort. C'est votre chair. Dieu dit, comment pouvez-vous vous détourner d'eux? Comment pouvez-vous faire cela? Est-ce que vous ne devez pas partager votre nourriture? Est-ce que Dieu ne vous a pas donné de la nourriture seulement pour vous? Non, c'est pour que vous puissiez la partager. Est-ce que ce n'est pas pour aider le pauvre, celui qui est dénudé? On voit dans Jacques, si quelqu'un vient à toi et qu'il a besoin de nourriture, il a besoin de vêtements, puis tu dis, « Hey, bon, mon voyage, que Dieu te bénisse. » Sans l'aider, Dieu dit, est-ce que tu as même la foi? Est-ce que même tu es chrétien? Ça, c'est un langage très dur. C'est ce qu'il dit de nos cœurs. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu doit affecter notre cœur avec la grâce de Dieu afin que nos vies soient si différentes. Ce n'est pas qu'on ajoute Jésus à notre vie, c'est que Jésus devient notre vie et ça transforme tout. Alors, il dit, tu dois partager ta nourriture, tu dois partager tes vêtements, tu dois partager ta maison. Vous savez, vous ne possédez pas une maison. Votre maison est un centre de ministère. Vous savez cela? Ce n'est pas votre château, ce n'est pas votre abri, comme si c'était votre rocher où vous allez vous mettre à l'abri. Votre maison est un lieu de ministère. C'est la vérité. C'est un endroit où vous accueillez des gens constamment. Ça devrait être le cas. C'est vrai, accueillir des gens dans votre maison pour la communion, pour la nourriture, pour ceux qui ont besoin d'un abri. Deux fois dans notre vie, nous avons des gens qui sont venus vivre à la maison chez nous. Deux adolescentes à différents moments, 15 ans, renvoyées de leur maison, sont venues vivre chez nous. Une fois, un an, elle était enceinte. Elle a eu son enfant lorsqu'elle était chez nous. Une autre fois, l'autre a vécu pendant 7 ans avec nous. Maintenant, c'est une professeure à l'université. Et nous avons simplement pris soin d'eux. Nous avons marché avec eux au nom de Jésus. J'étais à une conférence il y a quelques semaines et un homme est venu me voir et dit, j'ai 15 ans, mon nom est Kevin, mon nom est Dwayne, on partage ces situations. J'aimerais te partager mon histoire, c'était quelques minutes. Il dit oui. Alors, mon épouse et moi, nous sommes mariés quand j'avais 19 ans, nous étions très jeunes. Dieu nous a sauvés quand nous avions 21. Et j'avais une entreprise, nous avons été prospères, j'ai acheté une grande maison, 6000 pieds carrés. Nous vivions le rêve, nous donnions beaucoup d'argent. Et Dieu nous a dit, vous devez changer vos vies. Alors, nous avons vendu notre maison. Nous venons de milieux bien en moyen. Nous sommes emménagés dans une petite maison avec un terrain dans le centre-ville de notre ville. Et nous avons commencé à inviter tous les enfants autour dans les milieux plus défavorisés. Ils venaient dans notre cour et nous avons commencé à avoir des enfants. Ils ont 4 enfants. Il a 33 ans maintenant. Leur plus vieux a 12 ans. Alors, ils ont 4 enfants maintenant. Et puis, ils ont adopté un enfant, un de ces enfants qui venait du quartier. Et ils ont commencé à être une maison d'accueil. Alors, ils connectent avec cette famille dont les enfants sont rejetés dans le système. Alors, maintenant, ils ont 8 enfants à la maison. Et il a sa propre entreprise. Avec du succès, ils prennent soin de ses enfants au nom de Jésus parce que c'est juste la chose juste à faire. Simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que Dieu dit, une relation juste avec Dieu va vous amener à prendre soin des pauvres avec la nourriture et du vêtement et avec un abri et de ne pas vous détourner parce qu'ils sont votre chair. Je ne suis pas en train de dire que vous avez les moyens à chaque fois que vous croisez quelqu'un de toujours abriter tout le monde dans votre maison, mais vous pouvez les traiter avec dignité et respect. Vous pouvez avoir une conversation avec eux. Vous pouvez leur rappeler qu'ils ont été créés dans l'image de Dieu. Et peut-être que vous pourrez les assister, les aider d'une manière quelconque. Je ne vous dis pas de donner de la nourriture, de l'argent. Peut-être que vous pouvez leur apporter de la nourriture. Mais nous ne voulons pas être le prêtre, le lévite. Nous voulons être le bon samaritain. Alors écoutez ceci. Si vous pointez les gens ici, plutôt que de les aider, si vous pointez les pauvres en disant c'est de leur faute, c'est leur problème, si vous commencez à regarder les injustices dans notre société, combien les riches font et combien les pauvres font, la distinction entre les deux, la différence entre les deux, c'est frappant. Si vous regardez ces statistiques, 91 % des gens d'un milieu de banlieue vont graduer après 5 ans. Il y a 7 % de pauvreté. Et dans l'école de mon quartier, seulement 37 vont graduer et 39 % seront dans la pauvreté. Alors, il y a une corrélation avec les quartiers. Regardez cette statistique. Dans un milieu de banlieue, l'âge moyen de décès était 86 ans. Et dans son quartier, dans mon quartier, c'est il y a 21 ans de différence dans l'heure de décès. Alors, si vous emménagez dans mon quartier, votre espérance de vie diminuerait de 21 ans. Dans notre propre pays, au Canada, je peux seulement imaginer à Montréal, j'imagine que les statistiques seraient similaires. 41 % des gens qui vivent dans mon quartier vivent sous le seuil de la pauvreté. Alors, Ésaïe dit, si dans vos villes que le Seigneur vous a données, s'il y a des pauvres parmi vous, dans les villes que Dieu vous a données, n'endurcissez pas votre cœur, ne refermez pas votre main. Au contraire, ouvrez votre main, aidez-les librement, donnez généreusement et faites-le sans murmurer. Alors, à cause de cela, le Seigneur vous bénira dans tout votre travail et dans tout ce que vous faites. Il y aura toujours des pauvres en votre milieu et je vous commande, gardez vos mains ouvertes pour aider les gens qui sont dans le besoin. Ne gardez pas vos mains fermées, n'ayez pas le cœur dur. C'est celui qui a le cœur dur blâme les autres. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Ma maison, ma voiture, c'est comme un enfant de 3 ans. C'est à moi, c'est à moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta voiture n'est pas à toi, c'est un véhicule de ministère. Ta maison n'est pas à toi, c'est un centre de ministère. Ta retraite n'appartient pas à toi. Chaque sou que tu as fait est une grâce qui vient de Dieu. Tout ce que tu as fait, chaque 10 sous que tu as fait, tout appartient à Dieu. Est-ce que ce n'est pas vrai? Dieu possède toutes choses. Dieu a créé toutes choses. Dieu possède toutes choses et Dieu donne toutes choses. Et l'auteur de Deutéronome dit, n'ayez pas le cœur endurci, ne gardez pas vos mains fermées, mais avec libéralité, partagez ce que vous avez, donnez ce que vous avez, afin que ceux qui sont pauvres dans le pays. Est-ce que vous avez entendu? Je vous commande. Je vous commande. Alors, combien de vos biens, de votre richesse, vous donnez pour les pauvres? Combien est-ce que vous donnez pour les marginalisés? Combien de vos richesses vous donnez pour prendre soin des gens qui ont moins autour de vous? Mon épouse et moi, on a pris cet engagement. Nous ne dépenserons rien sur nous-mêmes jusqu'à ce que nous ayons été généreux avec le Seigneur et avec les pauvres. On ne dépense rien pour nous tant qu'on n'a pas été généreux avec le Seigneur et avec les pauvres. Alors, au moins un dixième, vous allez avoir vos reçus d'impôts. Regardez vos revenus, regardez votre reçu. Est-ce que vous avez donné au moins la dixième? Ça devrait être le point de départ. Si vous n'avez jamais été vérifié par les impôts parce que c'est que vous ne donnez pas assez. Nous, on a été vérifiés l'année dernière parce qu'on donne trop. Ils ont vérifié 3 ans en arrière. Ils disent, pourquoi? J'ai été vérifié comme 10 fois parce qu'on donne tellement. Ils trouvent ça suspect. Vous perdez du temps. Ça fait 12 fois que vous nous vérifiez. Allez voir les vrais voleurs. Nous, on est généreux. Mais ils disent, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi vous êtes aussi généreux. Laissez-moi vous parler de mon roi. Mais pourriez-vous imaginer si tous les chrétiens à travers le pays étaient si généreux que chaque année, le fisc venait nous auditer et chaque fois, il nous disait, « Tu veux savoir pourquoi on est généreux? Parce que notre Sauveur est plus généreux que nous. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le confort de l'éternité. Il n'avait pas besoin de le faire. Il a caché sa divinité. Il est devenu un être humain. Il est venu dans le sein d'une femme pendant 9 mois. Il est né dans le besoin. Il ne pouvait pas changer ses couches. Il ne pouvait pas se nourrir. Dieu a fait cela. Dieu a fait cela. Celui qui a créé les étoiles, celui qui a placé le soleil, celui qui a fait naître les montagnes, les océans, Dieu s'est confiné au sein d'une femme parce qu'il vous aimait. Il est né dans le besoin. Il a vécu 33 ans sans péché. Et à la fin de sa vie, il est mort sur une croix pour nos péchés. Corinthiens nous dit, je suis désolé Yannick, you're doing good, brother. Corinthiens nous dit que celui qui était sans péché est devenu péché sur la croix. Il a traversé l'enfer sur la croix afin que nous allions au ciel. Amen. C'est ce qui s'est passé. Il a expérimenté la colère du Père sur lui. Et alors que cela s'est passé, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, abandonné. Parce que cette communion parfaite que la Trinité a toujours eue a été interrompue à ce moment alors que le Fils est devenu péché, notre péché. Vous voyez pourquoi il l'a fait? Parce que la joie qui était devant lui, il vous a aimé tant que plutôt que vous en laisser aller en enfer, il est intervenu pour vous sauver. Qu'il soit béni, loué. Et il dit, votre vie maintenant ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. Il est mort afin que nous vivions et nous mourrons maintenant afin que d'autres puissent vivre. Est-ce qu'il n'est pas un Dieu glorieux? Voilà pourquoi il nous dit de prendre soin à tous les jours dans notre manière de vivre. Rapidement, dans un sens pastoral, dans Jacques, cette religion qui plaît au Père est de prendre soin des veuves et des orphelins et de se garder d'être pollué par le monde. Vous savez que si vous lisez la suite, voici ce que ça dit. Nous pensons que ne pas être pollué par le monde, c'est la pureté. Mais c'est la pureté en prenant soin des pauvres, parce que dans Jacques 2, il n'y avait pas de séparation à l'origine dans la Bible. Jacques dit ensuite, assurez-vous de ne jamais faire preuve de favoritisme. Ne laissez pas le pauvre s'asseoir. N'envoyez pas le pauvre à l'arrière et le riche à l'avant. Alors, toute la lettre de Jacques parle de cette attitude envers le pauvre. Prendre soin de la veuve et de l'orphelin et ne soyez pas pollués par le monde en ne faisant pas preuve de favoritisme comme le monde le fait, car vous seriez ainsi corrompus comme le monde. Mais quand vous prenez soin, alors quand vous ne prenez pas soin du pauvre, vous avez été corrompu par le monde. Ésaïe 58. Alors, quand vous commencez à faire le bien pour les bonnes raisons, quand vous voyez votre maison comme un centre de ministère, votre véhicule comme un outil pour les mains de Dieu, comme tous vos revenus, comme le Seigneur qui vous permet généreusement, alors il va commencer à prendre soin. Dieu nous donne des choses pour que nous puissions bénir d'autres. Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans Éphésiens? Si vous aviez volé, arrêtez de voler et travaillez. Voici ce qu'il dit ensuite. Afin que vous ayez quelque chose à donner à ceux qui sont dans le besoin. Aïe, aïe. Alors, vous commencez à vivre de cette manière-là, plutôt que simplement suivre la motion. Enfin, vous voyez que l'Esprit vous parle d'une manière puissante, extraordinaire. Vous voyez des injustices, vous cherchez à les enrayer. Vous voyez des gens qui ont besoin de compassion, vous manifestez de la compassion. Alors, votre lumière va briller. Votre justice va vous annoncer et la gloire de Dieu va être votre protection. Alors, vous allez prier et le Seigneur va vous répondre. Vous allez demander de l'aide et le Seigneur va dire, « Je suis ici. » Vous vous rappelez lorsque vous alliez à travers la motion, vous présentez à l'Église et l'Esprit de Dieu essayait de vous parler, mais non, vous étiez en train de murmurer. Le Seigneur a dit, « J'ai arrêté de t'entendre. » À ce moment-ci, quand vous faites le bien pour les bonnes raisons, quand vous êtes en vraie relation avec lui et que cela vous amène à renoncer à vous-même pour prendre soin des autres, quand vous allez m'appeler, vous allez entendre ma voix, vous allez savoir que je suis là. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? La gloire du Seigneur sera votre garde. Il dit, quand vous allez avancer dans des milieux sombres, quand vous allez avancer pour prendre soin de ceux qui sont marginalisés. Peut-être que vous connaissez Dwayne et Miriam Mansfield. Alors que nous avançons avec eux, Dieu est en train de dire, je m'occupe de vous. C'est moi votre protecteur. Ma gloire est votre garde. Il n'y a personne. Je ne veux pas avoir personne dans cet univers ou dans l'univers qui garde mon arrière que Dieu. Et Dieu dit, ma lumière brillera au-devant de toi et quand tu vas prier, je vais répondre. Car si vous vous consumez à prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, vous prenez soin des opprimés, votre lumière va briller. On n'est pas juste un lieu de services sociaux, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. On n'offre pas seulement de la nourriture, des abris. On fait cela, c'est vrai. Nous offrons de l'abri et de la nourriture au nom de Jésus-Christ, afin que l'âme des opprimés puisse être satisfaite. Alors, notre Église a toutes sortes de programmes. On donne de la nourriture à 300 familles à Noël. Nous donnons des cadeaux. Nous donnons de la nourriture. On a besoin de 40 000 $ pour aider. On s'occupe d'une ligue de sport parce qu'il n'y a pas de sport pour les pauvres. On a 300 jeunes qui viennent jouer. Plus de 400 personnes viennent dans nos banques. Et comme notre quartier est en train de se gentrifier, au-delà de cela, on s'est dit, on va construire avec notre nouveau bâtiment du logement social au-dessus de notre bâtiment. Notre projet était au début 8 millions, maintenant on est rendu à un projet de 20 millions. Avec 45 appartements de logement social pour ce quartier qui est en train de se gentrifier. Et jusqu'à présent, on a 15 millions d'amassés par des dons. Dieu nous a donné 15 millions pour ce projet de construction. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et on le fait pour prendre soin de l'âme de l'opprimé. On chante l'Évangile constamment, sans arrêt, chaque minute. Ceux qui viennent recevoir de la nourriture reçoivent l'Évangile. On les invite dans une étude biblique. Et 47 personnes sont venues à une étude biblique en janvier. Parce que nous prenons ces moyens très tangibles de partager l'amour de Dieu et on va leur annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Laissez-moi vous parler de Jésus-Christ. Chaque soir, on a une méditation biblique lorsqu'on fait le sport, le soccer l'été. Parce que sans aucune excuse, nous partageons l'Évangile. Ils reçoivent notre nourriture et ils doivent entendre la gloire de Jésus-Christ. Chaque fois, chaque âme. Je vois que mon temps est écoulé. Et ils m'ont dit que j'avais 2 heures à l'arrière. Ils m'ont dit, continue. Si tu continues longtemps que tu veux, tu vas savoir qui est spirituel dans notre église. J'ai dit, dans mon église, j'ai 100 enfants quelque part. Et même si les gens sont spirituels, ces enfants vont rentrer. Et ils vont prendre le contrôle. Alors, très brièvement, je pense à Calvin. Calvin, c'est un ami qui vient d'un foyer bouddhiste. Commence à entendre parler de l'Évangile l'été dernier, va dans un camp. Je parle dans un camp pour adultes. Je vais à ce camp de jeunes. Et 80 de nos jeunes sont dans ce camp. Alors, lui, il est là, il est en train d'aider. Il n'est pas encore chrétien. Il aide dans le sport. Et je dis à Calvin, comment était ta semaine? Il a dit, c'est extraordinaire. Il dit, pourquoi? Il dit, Dwayne, j'aime ces gens, j'apprends. Il dit, qu'est-ce que tu as appris? Je lui dis, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que Jésus est tout et que Dieu l'a sauvé. Dieu a sauvé Calvin. Et maintenant, Calvin amène ses amis bouddhistes à notre église. Et je me suis assis avec son ami Rick. Et Dieu me parle actuellement. C'est ce que Rick m'a dit dernièrement. C'est ce que Dieu fait. Dieu sauve encore aujourd'hui. Je pense à Nigel. Il est né dans un foyer non chrétien, père alcoolique. Quand je l'ai rencontré, il avait 16 ans. Dieu l'a sauvé à 17 ans. À 18 ans, il était bénévole dans nos programmes. Et 3 dames que nous avons embauchées, ils m'ont dit, tu dois chasser Nigel, c'est un très mauvais bénévole. Alors, je m'assois avec Nigel, c'est un homme de sport. J'aime chasser les bénévoles. Je dis, Nigel, t'es renvoyé. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as une très mauvaise attitude. T'es costaud, t'es intimidant. Et il s'est mis à pleurer. Et il dit, je ne veux pas être comme ça. Est-ce que tu pourrais prier pour que Dieu change ma vie? Alors, on a commencé à se rencontrer et j'ai fait de la formation de disciples avec lui. Et une de ses filles qui voulait que je le renvoie l'a épousé. Les gars, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, les gars. Et sa mère a remarqué. Et Dieu a sauvé sa mère. Et dans notre tradition, nous croyons, nous disons aux gens, qui est la personne la plus influente dans ton cheminement, c'est cette personne-là qui va vous baptiser. Donc, Nigel a baptisé sa mère. Et 2 mois plus tard, elle a eu un cancer. C'est il y a 10 ans de cela, 12 ans maintenant. Elle est atteinte d'un cancer. Et Dieu m'a dit, tout va bien aller, c'est ce qu'elle a dit. Et je ne sais pas s'ils sont OK, c'est mon OK, mais si Dieu le désire de me guérir, je vais être heureuse de le servir pour les prochaines années. Et si Dieu m'appelle à la maison, j'ai hâte de le voir. Dieu l'a guéri. Et puis, la sœur de Nigel, qui n'était pas une croyante, alors maintenant, la mère de Nigel a commencé à s'investir dans les petits-enfants et l'année dernière, et la plus vieille de ses petites filles, qui a 14 ans, s'est convertie et grand-maman l'a baptisée et puis Nigel l'a prié. Il y a toute une famille qui est en train d'adorer maintenant. Personne d'entre eux connaissait le Seigneur il y a 20 ans. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Lorsqu'on fait notre banquet pour ramasser des sous pour le projet de construction, cette dame-là a partagé son histoire. Elle s'est assise et Calvin, le jeune homme bouddhiste, était assis avec nous, avec des donateurs. Et puis Calvin est en train de pleurer, 17 ans. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de pleurer à la table. Mais il dit, il n'y a rien. Mais il dit, je prie pour que Dieu me permette d'être le Nigel pour ma famille. Et je prie pour que ma mère, dans 10 ans, vienne partager son histoire, elle, de conversion. Parce que lorsque vous prenez soin de l'âme de celui qui est opprimé, Jésus se manifeste et les rencontre puissamment et les transforme rapidement. La parole de Dieu dit, le Seigneur va vous guider toujours et il va répondre à vos besoins. Il va vous fortifier. Vous serez comme une fontaine d'eau, comme une fontaine qui ne tarit jamais. Vous allez reconstruire sur les ruines anciennes. Vous allez réparer des murs brisés. Vous voyez? Alors le monde verra et la lumière de Dieu brillera et les gens ne comprendront pas qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, je vous ai parlé de cette famille qui a 4 enfants, maintenant qu'ils ont adopté d'autres enfants, ils ont maintenant 8 enfants. Alors, nous voulons aider, le gouvernement s'est impliqué, il dit, on veut ramener les enfants dans leur maison. Alors, Kevin et son épouse, 33 ans, ont accepté. Ils acceptent des enfants qui vivent chez eux du lundi au vendredi, puis la fin de semaine vont chez leurs parents. La seule condition qu'ils ont mise, ils doivent venir à l'église le dimanche. Et les parents aussi. Alors, les travailleurs sociaux ont dit, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on a le droit d'accepter ça? Et les parents de ces enfants ont dit, OK, on va faire ça, on va aller. Ils ont signé pour venir avec leurs enfants à l'église le dimanche. Alors, j'ai parlé à un événement, Kevin était là. Le parent des enfants qui vivent chez lui, son frère, était là. Et son père était là.
Not Kevin's dad, the foster care guy's dad.
Oh, le père du père de l'enfant.
Uncle, grandfather and
father, l'oncle était là aussi. Ils étaient tous à un événement de notre église. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose de tellement différent dans cette famille que ça ne pouvait pas être expliqué autrement que par une œuvre de Dieu. Et la lumière de Dieu a brillé. Voilà ce qu'il fait. Alors, tout à coup, les gens viennent vous voir et disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu faisais une révélation. Cuisine. Et il n'y a rien de mal à faire une rénovation, il n'y a rien de mal à acheter des choses. Oui, on sait ce qu'on allait faire, rénover la cuisine. Mais on a pris une partie de cet argent, puis on a décidé de supporter tel ministère comme église, on a décidé d'aider avec notre banque alimentaire, on a décidé de prendre soin des marginalisés. Et les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Ce sont les pauvres. Pourquoi vous faites cela? Peut-être que vous commencez à adopter des enfants dans votre maison. Peut-être que vous commencez à devenir famille d'accueil. Je ne sais pas. Peut-être comme assemblée, vous commencez à construire des maisons. Je ne sais pas. Mais les gens vont penser que vous avez perdu votre esprit et ils vont dire, on dirait que vous avez perdu votre tête. Ils vont dire, non, j'ai trouvé une pensée juste parce qu'elle est en Jésus-Christ. Et il a tout transformé. Deux choses. Je sais que j'ai dépassé mon temps. Le band peut venir me rejoindre rapidement. Oh, je suis descendu de l'estrade. Je suis désolé. Je vais terminer ici. Je suis désolé. J'ai fait ça dans d'autres églises. Ils disent, qu'est-ce que tu fais là? Deux choses rapidement. Je sais que c'est Québec. Et je sais que le sol est difficile ici. Il y a deux semaines, on a eu une cérémonie. On a eu un prix qui nous a été remis par l'Université McMaster. C'est une université non chrétienne. Et ils sont opposés à l'Évangile. Et pourtant, ils nous ont remis un prix pour reconnaître notre travail dans cette ville. Nous avons décidé, comme faculté de McMaster, de vous honorer. J'ai dit, quoi? Est-ce que tu pourrais venir à un banquet? J'ai dit, OK. Et on va vous remettre un chèque. J'ai dit, quoi? Et on va vous honorer. J'ai dit, OK. J'ai dit, est-ce que je peux dire merci? Il a dit, oui, on a entendu dire que tu es un orateur décent. Là, j'ai dit, donc, ils m'ont dit, tu peux parler quelques minutes. Ils ont dit, non, je ne peux pas le croire, c'est de mieux en mieux. Alors, ils ont parlé de notre église, de ce qu'on fait actuellement avec les pauvres. Ils nous ont honorés devant 600 médecins et membres de la faculté. Et ils ont parlé de l'œuvre qu'on fait. Ils ont parlé de cette église. Puis ils m'ont donné le micro. Wow! Et j'ai parlé comment on peut s'entraider pour travailler, comment on le fait, nous, dans le nom de Jésus-Christ. Et à la fin de la soirée, deux de leurs leaders sont venus me voir. Je veux que tu réunisses des chrétiens pour nous rencontrer, pour nous expliquer comment les chrétiens pourraient travailler avec l'université. Et on va les rencontrer dans 3 semaines, parce que si vous prenez soin des marginalisés, le monde remarque, ne comprennent pas pourquoi tu le fais, ils ne comprennent pas qu'est-ce que tu fais, et tu leur dis, c'est Jésus qui a changé ma vie. Jésus-Christ, c'est la seule explication. Et la lumière brille. Et je peux le dire dans ce sol difficile du Québec. Et peut-être que c'est une radicale transformation du cœur, afin que Dieu vienne parler à vos cœurs, afin que votre lumière vienne parler à vos enfants qui ne vous connaissent pas. Que ton épouse qui ne connaît pas le Seigneur soit bouleversée par la lumière qui brille dans ta vie, pour tes parents aussi. Et peut-être que Yannick me réinvitera. Et la prochaine fois que je vais venir, quelqu'un va dire, « Je n'étais pas ici la dernière fois, mon frère était ici. Mon patron était ici. Mon ami était ici. » Et Dieu a tellement changé leur vie que maintenant, je suis venu entendre le message et Dieu m'a sauvé maintenant. Parce que la lumière de Christ a brillé à travers eux. Permettez-moi de prier. Seigneur, Père dans le ciel, nous reconnaissons que c'est beaucoup plus grand que nous. C'est trop grand pour nous. Transforme nos vies. Trop souvent, nous pointons le pauvre, nous jugeons. Trop souvent, nous passons à côté du pauvre. Nous ignorons. Tu nous as dit d'aimer pourtant notre prochain. Ils ont été créés à ton image. Tu nous dis que nos maisons, c'est un lieu de ministère. Nous pensons que c'est notre château. Change nos vies, Seigneur. Change-les si radicalement afin que les gens puissent voir la différence dans notre vie. Pour qu'ils puissent vouloir entendre de l'Évangile, qu'il n'y ait pas d'autre explication que l'Évangile, que tu as travaillé à travers nous. Tu nous as transformés. Oh Seigneur, on a besoin de toi. Et nous prions dans le nom puissant du ressuscité, de celui qui est devenu pauvre afin que nous soyons riches. Jésus-Christ le Seigneur. Et le peuple de Dieu a répondu, Amen.